أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. La dernière fois, donc, nous avions exposé la troisième condition pour que le divorce énoncé soit valide. Eh bien, tout en exposant donc ces conditions, on soulevait des questions pratiques en vérité par rapport à ce point. La quatrième condition pour que le divorce soit valide, c'est ce qu'on appelle as-sira en arabe, c'est-à-dire c'est la formulation. Cette formulation tient lieu à beaucoup de débats, hein. C'est-à-dire quels sont les termes, une fois utilisés, signifie le divorce. Est-ce que le fait d'utiliser des termes autres que le terme talaq engendre divorce? Est-ce que les termes considérés comme tels par l'usage, l'arf, donnent lieu à un divorce légal ou non? Donc toutes ces questions-là sont posées, c'est pour ça que les savants ont abordé ce point. Alors premièrement, ils sont unanimes, il y a accord entre les juristes, que le divorce a lieu, qu'il s'agisse de la langue arabe ou d'une autre langue que la langue arabe. C'est-à-dire que lorsque la personne formule d'une manière explicite en arabe sa décision de divorcer, ou dans une autre langue autre que la langue arabe, le divorce a lieu. Donc là, c'est un sujet de ittifaq. Donc il y a accord, unanimité, que le divorce a lieu en arabe ou dans une autre langue que la langue arabe. Le moyen, soit s'il s'agit d'une énonciation verbale, notre, l'offre, ou par écrit, donne lieu au divorce aussi. Ils disent aussi, par allusion. Allusion, c'est-à-dire, c'est une formulation autre que le terme explicite du divorce, mais cette allusion, elle est sujet d'accord, elle est connue comme telle. Donc, s'il utilise une formulation qui fait allusion au divorce autre que les termes explicites du terme divorce, le divorce a lieu aussi. Pour le muet, s'il utilise un geste qui est considéré dans le langage des sourds et des muets comme étant une formulation, la formulation par laquelle ces personnes expriment leur volonté de divorcer, le divorce a lieu. Ils sont d'accord aussi que le divorce peut avoir lieu par l'envoi d'un émissaire ou d'un messager. Bien sûr, il faut que cette personne soit une personne honorable, mandatée. Donc, le divorce a lieu bi irsali rasoul ou par l'envoi d'une lettre. Maintenant, nous sommes dans une époque où les moyens sont diversifiés. On a les mails, on a les SMS, coup de téléphone. Et bien, ces moyens sont considérés comme des moyens par lesquels le divorce a lieu. Si un homme envoie à sa femme un SMS, il lui dit « je te divorce » et elle est sûre qu'il est main de lui, le divorce a lieu. Si c'est un mail, la même chose. Les mails sont utilisés même comme un moyen, puisque c'est de l'écrit, qui rentre dans la procédure judiciaire, hein, dans une procédure. Donc on peut apporter des preuves, des photocopies ou des copies de mails imprimés. Donc c'est pris en considération. L'important, ils disent, il faut que soit un lafz sarih, un terme explicite, ou al-kinaya. Al-kinaya, al-kunya, c'est un surnom. Mais il faut que ce surnom soit sujet, bien sûr, d'accord, et il est considéré comme tel, connu comme tel. Je répète, parce qu'ils disent, il faut qu'il soit accepté par les gens. Alors le terme arabe, ils disent « muta'arafun alayhi ». Il faut que ce terme, autre que le mot « talaqun » ou « divorce » en français, et qui fait allusion au divorce, il faut que ce soit un terme « muta'arif alayhi ». C'est-à-dire sujet d'accord usuel. C'est-à-dire, dans les usages, on considère le terme comme un terme par lequel on parle de divorce. Comme je veux venir, comme le terme « blaharam ». Anti haramun alayya, bien sûr, ça sous-entend en vérité. C'est comme si, ici, c'est comme s'il s'agit de zihar. Zihar, c'est lorsqu'un homme jure de ne plus toucher sa femme, la considérant interdite comme l'est sa mère. Et vous savez très bien que la sanction, c'est, en islam, il y a une expiation, plus un jeûne, pour celui qui fait cela. Nous sommes d'accord? Mais, dans l'usage maintenant, c'est pas pour dire tu es comme le dos de ma mère, si je traduis littéralement. Non. Les hommes qui utilisent ça dans certains pays, c'est pour dire anti-talaq. Tu es divorcé. Lorsqu'ils jurent bil-haram, pour eux, c'est-à-dire, il y a divorce. Et voilà, donc ça, c'est autre chose. Donc nous sommes devant une autre situation là, une autre terminologie. Ok? Donc on est d'accord sur ça? Donc, je répète. Donc, si l'individu qui utilise cette formulation « anti alayya haram » et son intention, c'est qu'il y a divorce. Selon l'imam Malik, l'école de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, le divorce a lieu. Et de toute façon, on trouve cette formulation-là très utilisée dans les pays où il y a le malikisme et le shafi'isme. L'Afrique du Nord et dans l'Égypte et les régions. Et dans l'Égypte, il y a beaucoup le madhhab, le rite de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et il y a un peu encore du rite de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et en Afrique du Nord, c'est foncièrement la vie de l'imam Malik, avec un petit peu en Tunisie, l'école Hanafite, qui existe jusqu'à nos jours. Ça va? Et cette école Hanafite en Tunisie, elle existe depuis les premiers siècles de l'islam. Depuis que Assad ibn al-Furat est parti à la rencontre de l'imam Malik, puis il est allé suivre l'enseignement de l'imam Shaybani, le compagnon d'Abu Hanifa. Donc vous voyez, donc ça date du deuxième, troisième siècle, deuxième siècle de l'Égypte déjà. Donc il est allé rencontrer l'imam Malik, il a reçu un enseignement, et puis après il est allé chez l'élève d'Abu Hanifa, puis il est revenu, il a composé un livre qui s'appelle Al-Asadiyya, et dans lequel on trouve beaucoup de hanafisme. Et c'est là qu'est née l'école hanafite dans nos pays, puis après, elle va émerger plus. Si vous voulez, en 3e, 4e siècle, on trouve en Tunisie l'école hanafite très prépondérante. En Tunisie, on a eu jusqu'à, on va dire, jusqu'à la date de l'indépendance, entre 1955-56, on avait deux mouftis en Tunisie, un mufti hanafite et un mufti malikite. Avant qu'on ferme la Zaytouna et qu'on met fin à la présence du droit musulman dans la réalité. C'est clair? Donc ici, vous avez donc ça va dire, et c'est vrai, on entend fréquemment en Afrique du Nord l'utilisation interdit al-haram. On entend aussi cette notion-là en Égypte et dans ces régions-là. Et donc, selon ces deux écoles, puisque on désigne par cette formulation la volonté de divorcer, le divorce a lieu. L'important, on prend en considération les termes qui sont devenus des termes usuels, d'usage, de harf, c'est-à-dire conventionnellement établis dans les usages et coutumes des gens. Ces termes qu'ils utilisent, même s'il s'agit d'autres termes que talaqa, eh ben sont pris en considération pour le divorce. Et donc, c'est ce que dit donc l'imam Cheikh Wahb al-Zuhayli. Et ils disent que même chez les Hanafites, puisque ce terme est devenu usuel, actuellement ils le considèrent aussi comme un terme, le mot anti-muharram, anti-haram, ils le considèrent comme un mot aussi par lequel on désigne le divorce. Et comme vous le savez, le Cheikh Wahb Zuhali est de l'école Hanafite. Et donc il est de Syrie. Et en Syrie, on trouve l'école Hanafite. Au Liban, on trouve l'école Hanafite aussi. Beaucoup de gens croient que le Hanafisme est uniquement au Pakistan. Mais non, au Liban, l'école Hanafite est omniprésente. Elle est même l'école presque, l'officielle presque. Et en Syrie, on trouve beaucoup aussi l'école Hanafite. Malgré qu'Ibn Taymiyyah a vécu dans cette région-là, et Ibn al-Qayyim al-Jawziya, qui est tendance hanbalite, mais on trouve l'école Hanafite qui est très dominante. Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, il est de tendance Hanafite. Ça va ? Je donne ces informations, comme ça vous savez, les savants, lorsqu'ils parlent, quel est leur patrimoine juridique, et ils parlent à partir aussi de leur code de droit à laquelle ils adhèrent, ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient un savant parler, ils croient qu'il parle dans l'absolu. Non, il a une école juridique à laquelle il adhère. Et donc, ses avis juridiques, ses fatwas sont influencés par l'école de droit à laquelle il s'affilie. Il n'y a pas un juriste qui parle à partir de rien, ça n'existe pas. Qu'il soit d'Arabie ou qu'il soit de Syrie ou d'Égypte, ou d'ailleurs, il y a une école de droit à laquelle il adhère. Et les gens ne comprennent pas. Lorsque vous entendez un cheikh d'Arabie, ses avis sont influencés par l'école de droit hanbalite. Indiscutable. Si c'est un savant égyptien, soit il est l'école chafiïte, soit c'est du hanafisme. Si c'est de l'Afrique du Nord, c'est l'école malikite foncièrement. Et ainsi de suite. Si c'est le Soudan, c'est l'école malikite. Donc il y a beaucoup de... Et parfois, ils font donc la recherche, s'il n'y a pas dans leur école, d'avis dans d'autres écoles, où ils font la balance de tarjih entre les avis pour trouver l'avis le plus fondé, le plus valide, parce qu'il s'agit d'un savant qui a quand même de la qualité et qui a une maîtrise. Mais en général, surtout les douhats, ils sont affiliés à une école de droit. Bien. Donc, j'ai dit, donc voilà, donc je répète, comme je résume, donc, l'utilisation de la langue arabe ou d'une autre langue que la langue arabe valide le divorce. Qu'il s'agisse du terme explicite, connu, talaqa, le divorce a lieu, ou de termes qui font illusion, ou des termes qui sont devenus des termes usuels, par lesquels on désigne le divorce a lieu. Si l'intention est telle. Nous avons dit que le divorce a lieu, soit par l'expression verbale directe, soit par... l'envoi d'un émissaire ou d'un messager, d'une lettre. Et j'ai dit, de nos jours, on peut y ajouter tous les moyens de transmission. Tous les moyens, SMS, mail, coup de téléphone, etc. Ce sont des moyens légaux par lesquels le divorce a lieu. Ça va ? Et ce sont des sujets d'accord. Hein. J'ai dit « ittifaq » entre les juristes. J'ai dit mandaté. Oui, bien sûr, comme on a parlé, le contrat du mariage a lieu par mandat. On peut mandater quelqu'un qui va rédiger le contrat à la place de l'homme. Ça s'appelle tawkil, l'wakala. Et bien, le divorce peut avoir lieu aussi en mandatant quelqu'un qui le fait. Bien sûr, un document qui prouve qu'il est mandaté pour agir. Ça, ce sont des moyens légaux. Ça va ? Autre condition maintenant pour que le divorce ait lieu, c'est qu'ils disent qu'il faut qu'on divorce suite à un mariage. C'est clair. Il faut qu'il y ait un mariage pour qu'on parle de divorce. Lorsqu'il n'y a pas de mariage, on ne peut pas parler de divorce. Par exemple, dans des fiançailles, on ne parle pas de divorce. On parle d'annulation des fiançailles, point final, c'est tout. Mais on ne parle pas de divorce, puisqu'il n'y a pas de conséquence à une annulation du mariage, des fiançailles. Tandis que le mariage, il y a encore des conséquences, surtout s'il y a des incidents qui vont arriver, des événements durant l'aide, durant la période de viduité. Si la femme décède pendant la période de viduité, le mari a le droit à l'héritage. Si c'est lui qui décède, elle a le droit à l'héritage. Parce qu'ils sont toujours mari et femme pendant la période de viduité. S'il y a grossesse, l'enfant, il appartient au lit conjugal. Donc il a le nom du père. et des droits. Et ça veut dire qu'il y a des devoirs du côté du géniteur. Tandis que dans les fiançailles, il n'y a aucun... S'il y a divorce après un mariage et que la dot n'a pas été encore payée, ben l'acquittement de la dot devient une obligation. Avec le divorce, l'homme doit verser toute la dot. S'il ne l'a pas versée, ou le restant de la dot. C'est clair? Tandis que, comme nous avons dit, le khitba, il n'en résulte pas. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, il n'y a pas de talaq qu'après mariage. La talaq, elle la ba'da nikah. Donc il faut qu'il y ait le lieu du divorce, c'est-à-dire sur lequel on va agir, c'est-à-dire il y a une femme qui est mariée à un homme, et une femme qui va demander par exemple la séparation par le khola, on va en parler, il faut qu'elle soit mariée à ce monsieur. Donc il faut qu'il y ait le sujet, le lieu qui permet de prononcer le divorce. Mais s'il n'y a pas de lieu, ben, on ne peut pas parler de divorce. Donc, et ça c'est le hadith donc, rapporté par... Donc, c'est sahih, et c'est la position de l'imam Ali, Abu Mu'ad, Jabir ibn Abbas et notre mère Aïcha, radiallahu anhu. Sinon, ça devient du langage futile. On divorce alors qu'il n'y a pas de mariage. Donc, on ne peut pas parler de talaq de celui qui s'est pas encore marié. Ça, c'était un sujet clair. Donc, on n'utilise pas le mot talaq pour des situations telles que les fiançailles pour expliquer ça. La question, par exemple, maintenant du témoignage. Est-ce qu'il faut qu'il y ait témoignage lors du divorce? La grande majorité des savants n'exigent pas de témoins. La parole de l'homme et de la femme suffisent. Ils assument ça devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est clair. Celui qui dit j'ai divorcé, ben il a divorcé. Celui qui dit il ne m'a pas divorcé, et lui il dit que j'ai divorcé, c'est sa parole à lui qui prend le dessus ici. Parce que c'est lui qui divorce. Tandis parce que nous avons vu que la femme demande le divorce par le biais du khola, du désistement, on va revenir à ce chapitre. Donc la grande majorité n'exige pas des juristes qu'il y ait témoin. Certains compagnons des compagnons, certains tabi'in, eux, ils demandent qu'il y ait témoin. Parmi eux, on peut citer Ibn Sirin, Mohammed Ibn Sirin, que beaucoup ne le connaissent qu'à travers son livre qu'on lui attribue, parce qu'il y a discussion entre les historiens, est-ce que ce livre lui appartient ou non, le livre L'interprétation des songes. Tafsir al-Ahlam, Ibn Sirin, mais Ibn Sirin était un grand savant. Il était tabi'i, il était juriste, il était muhaddith, faqih, et donc, et de tendance hanafite. Donc, Mohammed Ibn Sirin, donc, était un grand savant de l'islam, et on lui attribue uniquement Tafsir al-Ahlam, alors qu'il a beaucoup d'autres ouvrages. Donc, Ibn Sirin est parmi ceux qui disent, il exige donc qu'il y ait témoin. On cite aussi le tabi'i Ata, Ibn Rabah, qui était un grand tabi'i, un grand compagnon des compagnons. Et aussi, vous avez Ibn Jurayj, donc vous avez au moins 3-4 tabi'in qui exigent qu'il y ait témoin. Mais la grande majorité des juristes parmi les compagnons et les tabi'in et les écoles de droit n'exigent pas le témoignage. La parole de la personne suffit, dit Anatallah, on considère qu'il a divorcé. Et bien sûr, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le témoin par excellence dans cette affaire. Donc il ne faut pas mentir. Parce que s'il y a mensonge de part et d'autre, et surtout si on arrive à une situation où on a divorcé sa femme à les 3 reprises légales, là, et que la personne ment alors qu'elle a divorcé, ben, elle doit savoir que la relation est une relation illégale, et que c'est-à-dire c'est une relation de fornication en vérité. Et devant Dieu, c'est le châtiment. Et même s'il y a en naissance d'enfants, ils sont considérés illégalement des enfants illégaux, légitimes. Donc c'est pour ça, sur la question du divorce, il faut faire attention et reconsidérer sa parole. Alors, maintenant, il y a des gens, par exemple, ils prononcent le divorce, et soit c'est un divorce suspendu, à une condition, ou à un temps futur. Est-ce que le fait de le prononcer par rapport à un temps futur ou avec une conditionné fait qu'il est effectif ou non? Que pensent les juristes musulmans de cela? Je vais te divorcer l'année prochaine. Je divorce si tu fais ou tu ne fais pas. Vous allez dire c'est ridicule. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ridicule lorsqu'on se marie pour la vie. On ne joue pas à ce jeu-là. On en a parlé dans notre introduction sur la gravité du divorce. Mais les juristes musulmans étaient amenés à en parler parce que c'est devenu des faits de société. Et les gens venaient s'adresser à eux, des femmes musulmanes ou des hommes musulmans viennent s'adresser. Ils étaient obligés de donner des réponses. Donc ne croyez pas ça que ça fait partie du luxe à lequel s'adonnaient les juristes parce qu'ils s'ennuyaient, ne trouvaient rien à autre à faire, qu'ils commençaient à inventer des situations. Non, ce sont des situations malheureusement qui sont nées. Et on les trouve, on les voit autour de nous. Et donc comment est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un s'adresse à un juriste, il dit je l'ai fait, est-ce que je suis fautif, est-ce que mon divorce a lieu, etc. Ils étaient amenés à répondre. Mais normalement, les gens sensés n'arrivent jamais à des situations pareilles, mais les musulmans ne sont pas tous sensés, malheureusement, qu'ils soient parmi les hommes ou les femmes. Et donc, c'est pour ça qu'on vit des situations parfois qui sont tristes de ce genre-là. Donc, en vérité, le divorce doit être un divorce effectif, point à la ligne. Ça, c'est le principe. Si on dit divorce, c'est qu'on est sûr de soi. On ne joue pas. Et c'est pour ça que Dieu, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donné trois fois la possibilité... C'est parce que les musulmans, normalement, ils ne doivent pas y avoir recours. Et si un homme dit qu'il est divorcé, c'est qu'il est sûr, c'est que vraiment après tant de réflexion. Et si une femme demande la séparation par le khala, c'est qu'elle est sûre de sa démarche. C'est pour ça qu'il a limité à at-talaq marratani, famsak bi ma'ruf wa tisrah bi ihsan. Le divorce, donc le divorce, c'est à deux reprises. Et après, c'est quoi? Soit on maintient avec respect, ou soit on se sépare dans le respect. Et donc, lorsque Dieu nous donne des occasions aussi limitées que cela, c'est que les musulmans sont des gens, qu'ils soient hommes ou femmes, des gens qui réfléchissent avant d'agir et de franchir ce pas, qui est en vérité le pas par lequel ils vont mettre fin à leur union, qu'il soit de la part de l'homme ou de la femme. Donc, on doit être réfléchi. Et donc, mais malgré cela, donc, on trouve des gens. Donc, le principe, lorsqu'on est devant des gens réfléchis, c'est lorsque on le prononce, donc, il est effectif. C'est-à-dire que ça a été consigné. Rappelez-vous, on a dit qu'il n'y a pas de... On ne peut pas effacer ce qui a été dit dans les divorces. Il n'y a pas dans notre religion, je demande pardon à Dieu, Allah samahli, et on efface. Non. S'il y a eu prononciation des divorces, le divorce a lieu. Mais bien sûr, on a vu, et on va revenir à ça, c'est pas parce qu'on a dit qu'on est divorcé qu'on s'en va et qu'on se sépare. Non. Dieu a donné la possibilité qu'on reste ensemble pour se réconcilier. Et il y a des gens qui ont prononcé le divorce une ou deux fois, et puis, alhamdoulilah, ils ont pris conscience que le mariage a duré toute la vie. Ils ont fait des erreurs de part et d'autre, et le mariage après a tenu. Il y en a. Moi, et j'en connais des paquets d'individus de ce genre-là qui, alhamdoulilah, ils sont remis en question, et puis ils sont partis de bon pied, et ça a été pour eux, comment dire, une sonnette d'alarme. Et alhamdoulilah, les choses sont reprises à merveille et leur union a duré avec des enfants de pieux et une réussite totale. Et d'autres, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que Dieu donne cette possibilité de réconciliation. Mais lorsque je dis effectif, je veux dire ici dans le sens, c'est que le divorce a lieu sur le plan légal. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. C'est pas ça. On reviendra lorsqu'on expliquera « At-talaq al-ba'in bi-baynuna sughra » On expliquera, inshallah, ces formulations légales. Ce que moi je traduis lorsqu'il s'agit d'un divorce, je le traduis toujours divorce irrévocable, non définitif. Surtout si on dépasse la période de l'aide, de la viduité. Et puis il y a le divorce irrévocable, définitif. C'est là on parle lorsque les trois prononciations ont eu lieu. Lorsque la personne a divorcé à trois fois, séparé, on a dit, c'était l'avis le plus fondé. Mais j'y reviendrai encore. Et donc, parce que lorsque quelqu'un dit sur le même lieu, science tenante, à sa femme, t'es divorcé, nous avons dit que l'avis le plus fondé et qui est d'application dans les tribunaux musulmans, c'est équivalent à un seul divorce. Parce que si on met en application que la répudiation à trois reprises, le divorce à trois reprises, science tenante, il est effectif, il n'y aura plus de ménage musulman. Et nous avons dit que c'est Sayyidina Omar radhiallahu anhu qui a considéré lorsque quelqu'un dit à trois reprises science tenante c'est effectif parce qu'il y a eu de l'abus à son époque. Mais après Sayyidina Omar, Sayyidina Othman et les autres sont revenus à considérer que c'est équivalent à un divorce parce qu'ils ont considéré que ça comme un divorce d'innovation, bid'i, non conforme. Au Coran et à la sunna de Rasulullah, donc on le prend pas en considération et nous avons dit les avis des savants sur cette question. Donc, voilà, ça c'est le principe du divorce. Il ne faut pas qu'il soit conditionné ni rattaché à l'avenir. Il faut qu'il soit effectif au moment qu'il soit prononcé. Et donc, le divorce a lieu dès qu'il est dit. Mais quelle est la position maintenant d'un divorce qui est conditionné? C'est-à-dire, quelqu'un dit, je divorce si telle condition n'a pas été respectée ou si... Tu n'agis pas conformément à telle condition. On appelle ça talaq mu'allaq bi shart. Mu'allaq, il est rattaché à quoi? Une condition. Si la condition a lieu, ben moi je divorce. Et lorsqu'il s'agit de l'avenir, on dit mudafun ila zaman. Ila zamanan ila al-mustaqbal. Mudaf ila al-mustaqbal. Est-ce que ces deux divorces ont lieu? Chez la majorité des juristes, lorsque je dis la majorité, c'est le terme technique qu'on utilise dans le livre de droit, c'est al-jumhur. J'ai pas dit l'unanimité. Lorsque je dis il y a si je dis unanimité, c'est qu'il y a ittifaq, accord, ou ijma'. Ça va? Et le ittifaq ijma' peut être entre les quatre écoles uniquement, comme il peut être entre tous les juristes. Lorsqu'on parle de tous les juristes, on dit consensus, ijma'. Lorsqu'il y a les quatre écoles, j'ai dit il y a accord. Et lorsque la majorité, on le désigne par l'avis de al-jumhur. Ça, c'est le terme légal utilisé dans le livre de droit pour désigner la majorité. Donc, la majorité des juristes, eux, ils disent si la condition a eu lieu, le divorce a lieu. Ils ont, la samahallah, une dispute. Le shaitan a réussi à s'infiltrer et aucun des deux n'a pris conscience des hadiths de Rasoul Sallam qui dit à l'homme et par derrière cet homme, c'est une recommandation à tous les musulmans et musulmanes, la tardab, la tardab, la tardab. Et n'ont pas voulu mettre fin à cette colère en recourant au conseil de Rasoul Sallam. Ne peut éteindre la colère, c'est du feu, et ne peut éteindre le feu que l'eau, faire les ablutions, sortir, faire un tour. Non. Wahid izit vizit, ou l'akhir izit vinnar. Hop, ils sont en train de rajouter. Et il a dit, ben, si tu sors après moi ou tu me suis, t'es divorcé. Et il sort et elle le poursuit. Ben, le divorce a lieu, disent la majorité. C'est clair? Donc, ils disent la majorité, le divorce a lieu. Le seul qui a dit qu'il n'a pas lieu, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm de l'école Zahirit. Ibn Hazm, c'est-à-dire, rappelez-vous, l'Andalou. On en a parlé dans notre introduction et à maintes reprises, j'ai cité ce nom. Il dit parce que il n'est pas conforme à la sunna de Rasulallah et au divorce légal. Le divorce légal, il a une image claire. On divorce, on est conscient, il n'y a pas de contrainte, on sait ce qu'on veut, on n'est pas dans un état de colère intense où on ne fait plus la différence entre ce mur et cette table. La personne est consciente, les deux sont conscients, le divorce a lieu, point final. Ici, c'est une procédure non conforme. Si tu fais, je te divorce. Il dit, c'est pas ça un divorce. On dit ça, on est divorce, on dit un titre, point final, à cause d'une situation ou d'un vécu ou d'un désaccord à laquelle on trouve qu'il n'y a plus de solution. Donc ça, c'est la position d'Ibn Hazm. Alors, une formulation de divorce lorsque quelqu'un dit, je jure, oqsimu, il jure, que si tu fais telle chose, le divorce a lieu. Donc, il y a une condition, c'est une chose. Et puis, il y a celui qui a un rapport avec un qasam, un serment. Alors, lorsqu'il y a un serment, est-ce que ce divorce a lieu? En général, lorsqu'un homme fait un qasam, un serment, ils sont dans une situation de litige, de désaccord, c'est pour empêcher sa femme de faire quelque chose qu'il ne désire pas. Donc, c'est presque comme une sorte de serment. Je jure par Dieu que tu ne sortes pas. Eh bien, je jure que si tu sortes, il y aura ça. Donc, ils l'ont considéré en vérité une énonciation de divorce accompagnant d'un serment. Qasam. Chez la majorité, le divorce a lieu. Chez le Jumhur, le divorce a lieu. Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, ils disent il n'a pas lieu. Ibn al-Qayyim. Donc Ibn Taymiyyah et son élève, Ibn al-Qayyim, commençons par le maître et par l'élève. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, disent « La yaqa ». Je parle s'il y a un qasam. C'est pas qu'il y a une condition. S'il met une condition sans avoir juré, nous avons vu le divorce a lieu chez la grande majorité, sauf Ibn Hazm. Mais s'il a juré que si tu fais telle chose, tu es divorcé, il est différent du premier. Le premier, il y a une condition. Tandis que là, il y a un serment. Ibn Taymiyyah disent ce divorce n'a pas lieu. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il dit on considère qu'il s'agit d'un même s'il ne divorce pas, c'est-à-dire il a fait un acte de quoi? Parjure. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va faire le kafara. Il va faire l'acte d'expiation. Pour ne pas avoir respecté son qasam, son serment. Et l'expiation, comme vous le savez, c'est et'am ou asharat yamasakin, nourrir 10 pauvres. Et s'il ne peut pas, il n'a pas les moyens, à ce moment-là, il va jeûner. Et si cette expiation n'est pas au choix, comme beaucoup du grand public le croient, il y a un ordre à respecter dans l'acte de kafara. Normalement, si vous avez les moyens, vous devez nourrir. Si vous n'avez pas les moyens, vous jeûnez 3 jours. Nous avons choisi 3 jours parce que l'argent est très cher au cœur. Parce que lorsqu'il s'agit de 10, multiplié par 3, on va dire 3 euros un sandwich, c'est la moyenne de ce que vous consommez. Ce qu'on consomme, ça vous fait 30 euros. 30 euros, on l'a des fois beaucoup. Alors on préfère jeûner 3 jours. Et on choisit surtout des jours courts pendant l'hiver, là. Le suhoor, c'est un petit déjeuner, on rend le jeûne à 4h15. Non. Sachez-le que l'ordre est à respecter. Et si laïs bit tahir, c'est la vie vraiment le plus fondée. Le kafara laïs bit tahir ici, c'est pas au choix. Soit vous donnez à nourrir, soit vous jeûnez. Non. Vous devez donner. Comme pour l'expiation de Ramadan. Avant tout, c'est nourrir. Puis, si on n'a pas les moyens, on jeûne. Et nous avons la fameuse histoire connue là, du grand savant andalou. Laith, lorsque un des émirs, il a rompu son jeûne en ayant des rapports avec sa femme pendant un jour du Ramadan. Il a dit, celui-là, il a les moyens. C'est un émir, facilement, il va donner de quoi nourrir 60 pauvres, c'est pas une vraie punition. Il lui a dit, non, tu dois jeûner. Tous les savants se sont opposés à son avis parce qu'il n'est pas fondé. Ils lui ont dit, si Dieu a demandé qu'on nourrisse, c'est qu'il y a une hikma, une sagesse. Donc, c'est le rire les 60 pauvres qui dominent, puis après on jeûne. C'est la règle. Nous sommes d'accord? Ça, c'est connu, cette anecdote dans les livres de droit. Pour dire qu'on fait pas fonctionner le droit et la sentence divine selon notre vouloir. Non, c'est selon le vouloir de Dieu, parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il a derrière toute sentence une hikmah, un maqsad, un but qu'il cherche, subhanahu wa ta'ala, à réaliser dans la vie des hommes. Que nous pouvons le connaître, tant mieux. Si on ne connaît pas cette sagesse ni ce maqsad, ça c'est parce que nous sommes incapables, mais ça n'annule pas la sentence de Dieu et le respect de cette priorité établie. Donc, lorsque quelqu'un maintenant prononce son divorce et il est rattaché à un avenir, lorsqu'il dit « t'es divorcé d'ici une année », dans une année tu seras divorcé. Abu Hanifa, il est mamel, dit le divorce a lieu tout de suite. Parce qu'il a dit un tidala. Il se moque lorsqu'il dit dans une année, quoi, pour la laisser attendre. C'est-à-dire, ils n'ont pas, comprenez les savants ici, ils n'ont pas considéré ce divorce effectif parce qu'ils voulaient aller vite à la besogne, séparer un couple. Non, eux, ils ont pensé autrement. Ils ont pensé que cet homme qui a pris la décision de divorcer cette femme, il l'a dit parce que le divorce va avoir lieu. D'ici une année, tu es divorcé. Pourquoi est-ce qu'il la maintient? Pour ce quoi il l'empêche d'aller vivre sa vie? Elle sait que dans une année, il ne va plus vivre avec elle. Elle va rester attendre une année. Non, monsieur. Ce n'est pas ta propriété. Si Allah t'a donné priorité, c'est pour des sagesses qu'on avait développées la dernière fois, qu'il t'a donné la priorité à prononcer le divorce, mais ce n'est pas pour dire que c'est toi qui détiens pouvoir sur la femme. Non. Donc ils ont dit, l'imam Malik, et Abu Hanif, le divorce a lieu tout de suite. Elle est divorcée. Et donc, elle va passer par sa période de Hedda. Soit, après, il va se reviser pendant la période de viduité et se réconcilie. Soit, d'ici 3 cycles, elle dispose d'elle-même et elle va vivre sa vie. Elle ne restera pas dépendante de ce monsieur. Donc, c'est ça, c'est la vie de l'imam Malik, Abu Hanifa. L'imam Shafi et Ahmad, pour eux, ils disent, on respecte sa prononciation, son énonciation. Et donc, dans une année, elle est divorcée. Pour Ibn Hazm, il reste toujours dans sa logique, puisque c'est une formulation non conforme à la sunna de la sallallahu alayhi wa sallam, à ce que le Coran a établi, et ce divorce n'a pas lieu. Il dit parce que c'est une bid'a, c'est une innovation. Et je ne prends pas en considération le bid'a. C'est clair. Moi, personnellement, je pense plus à l'avis de l'imam Malik d'Abu Hanifa. Mais je vous ai donné donc les avis. Donc, Abu Hanifa, Malik, rahimahullah, le divorce a lieu tout de suite. Et la femme commence par sa idda, d'un divorce révocable, rij'i, s'il s'agit d'un premier ou d'un deuxième. Pour l'imam Shafi Ahmad, il aura lieu d'ici un an. Pour l'imam Ibn Hazm, il n'a pas lieu parce qu'il s'agit d'un divorce non conforme à la sunna de Rasulullah, ni au texte du Coran. C'est un acte de d'innovation, bid'aton, ou le bid'a, elle est à rejeter. Voilà, concernant donc celui qui rattache son divorce à un avenir. Maintenant, nous allons vous expliquer, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'un talaq ba'in bi baynuna sughra et qu'est-ce qu'un talaq ba'in bi baynuna kubra, les deux sortes de divorce. Nous avons dit que le principe en islam, un talaq, c'est 1, 2 et 3. Il talaq une première fois, on prononce le divorce une deuxième fois, on prononce le divorce une troisième fois. Ça, c'est la forme conforme au Coran et à la sunna de Rasulullah. Et j'ai dit, pour rappeler pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas présents avec nous, que la femme musulmane, et j'ai trouvé moi des modèles de ce contrat de mariage, qu'on appelait surtout al-aqd al-qayrawani, le contrat kairouanais que j'ai lu moi, il était du 3e siècle de l'Égypte, où l'école malikite acceptait que la femme exige « antakuna asmatuha biyadiha ». Ça veut dire cette formulation, c'est que dans le contrat, elle dit à son mari, on doit écrire devant, en présence de son tuteur, des témoins, etc., que mon divorce est entre mes mains. C'est-à-dire, le jour où elle veut divorcer, elle lui dit, je me divorce de toi, et lui dit, antital. Il ne peut pas lui dire non. Donc c'est la femme qui exige quand est-ce qu'elle divorce. Et donc ce n'est pas un khola celui-là. Ça n'a rien à voir. Et donc ils ont validé cette démarche. Parce qu'ils disent, le prophète sallam a dit, « Al-muslimuna anda shurutihim ». Les musulmans doivent respecter les conditions qui se sont imposées mutuellement, excepté une condition qui rend licite un illicite ou qui rend illicite un licite. Ça, ce n'est pas accepté comme condition en islam. « An yakuna shartan yuharrimu halalan ou yuhallilu harama ». Alors, on ne l'accepte pas. Mais tant que la condition est halal, on peut s'imposer les conditions qu'on veut. Et je vous ai dit que dans ce contrat, moi j'ai lu, la femme, par exemple, peut demander à son mari, exiger qu'elle écrivait qu'elle ne vive pas dans une autre ville que c'est la sienne. Et s'il accepte, il n'a pas le droit de déménager, d'aller vivre dans autre ville que celle-là. Parce qu'il a signé. Elle exigeait, par exemple, qu'elle ait X nombre de fois de visite chez ses parents. Et ainsi de suite. Donc, il s'imposait ces conditions et les musulmans respectaient. Et l'imam Malik dit, il doit respecter cette condition, ces conditions chez les malikites. Chez les malikites, le respect des conditions sont, même pour la polygamie, c'est un permis, mais l'imam Malik dit, si les malikites disent, si il accepte, ben il ne doit pas se marier. Et le jour où il veut se marier, elle lui dit, ben, salam alaikum, moi je me sépare de toi. Tandis que l'imam chef dit, cette condition n'a aucune valeur, même si elle est dans le contrat. Pourquoi? Parce qu'elle vient lui demander de ne pas profiter d'un permis, d'un halal. Et donc c'est une condition qui tombe à l'eau chez l'imam Shafi'i. Donc il y a des conditions qu'on peut mettre. Il y a des conditions. Tant que ce soit dans le cadre de l'islam et de l'accord. Donc ici, donc le principe c'est 1, 2, 3. Lorsque un homme dit « anti-talaq », on n'a pas à lui dire « est-ce que c'est talqa talqatan ?» On va la considérer une seule. C'est-à-dire une énonciation sans avoir spécifié. S'il s'agit d'un ou deux ou trois, c'est toujours un divorce. Donc si la formulation elle est dans l'absolu, chez les juristes, c'est équivalent à un seul divorce. Chez les Hanafites, ils disent, on prend en considération la formulation de l'homme. Donc s'il dit une, il dit « Tallaqtu kimaratan », je te divorce une fois, c'est une fois. S'il dit deux fois, c'est deux fois. Chez les Hanafites. Mais je vous ai dit que vraiment, dans les tribunaux musulmans contemporains, s'il dit « Tallaqtu kithalatha marrat », c'est considéré une, parce qu'ils ont vu qu'il y a une sagesse et parce qu'ils ont vu qu'il y a un danger. Alors, le talaq « ba'in bi baynuna sughra », c'est ce qu'on appelle « talaq rij'i ». Dans le langage juridique, « talaqun ba'inun bi baynunatin sughra ». C'est un divorce effectif, il est évident, il est clair, effectif. Mais en même temps, il est révocable en vérité. Donc si je traduis, je combine les deux, ça devient un divorce révocable non définitif. C'est un homme qui divorce une première fois. ou une deuxième fois. Et je vous ai dit que pendant ces deux situations, la femme est tenue de rester dans son foyer conjugal et l'homme n'a aucun droit de la faire sortir. S'il fait sortir sa femme pendant d'un divorce révocable non définitif, il a commis un interdit. Et si elle quitte pendant ce divorce révocable non définitif, elle est en état de péché aussi. Elle a commis un interdit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore mariés et femmes. Jusqu'à l'écoulement des trois cycles menstruels ou des trois mois lorsqu'il s'agit d'une femme ménopausée. Qui est dans ce qu'on appelle dans la période de l'IS. Et donc pendant ces trois mois ou ces trois cycles, elle est à sa charge. À tous les niveaux, c'est sa femme. Pourquoi est-ce que Dieu a ouvert cette possibilité? C'est pour qu'il y ait réconciliation. Parce qu'on avance vers le divorce dans un état anormal, parfois avec des mauvais conseillers aussi, de part et d'autre. De nos jours, on n'a plus de bons conseillers comme c'était dans les temps où l'arbitrage familial a pour but de maintenir le couple et de résoudre les problèmes du couple, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes couples. Actuellement, les parents directs et les frères et les sœurs viennent pour mettre la poudre. Et donc le ménage explose. Ils ne sont pas des réconciliateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans le Coran de l'Islah. وَالصُّلْحُ خَيْرِ, Dieu dit dans le Coran. Et la réconciliation est meilleure. Et Dieu, lorsqu'il y a un différent entre un couple, il dit وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas ce qu'il y a eu comme bienfait entre vous. Il y a eu des moments de joie, de bonheur, malgré les problèmes. Il faut se les rappeler pour essayer de reprendre le couple, de ne pas le perdre. Actuellement, on n'a pas des gens qui poussent vers la réconciliation, malheureusement. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, il dit qu'une des meilleures choses qu'un individu peut faire, c'est islah wa dhat al-bayn, réconcilier entre les gens. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous voulez que je vous dise quelle est la plus mauvaise chose? C'est ifsad wa dhat al-bayn, c'est détruire l'union des gens. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna al-haliqa, al-haliqa. Il a dit, je dis pas, celle qui rase. Il a dit, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, elle rase la religion. Tahlaq al-din. Celui qui vient détruire un couple, il a rasé sa religion, a dit Rasulallah. Donc on n'est plus devant les mêmes individus malheureusement qu'avant. Avant, les parents, ils étaient des réconciliateurs. Lorsque la fille elle vient, rentre chez ton mari, arrange-toi avec lui, tu l'as accepté, c'est toi qui as ratifié ce mariage, et ben, elle trouve des solutions pour trouver un accord avec ton mari pour t'aider. Et lorsque le fils vient, sa mère lui dit, c'est pas mon problème, tu étais marié seul, tu n'avais pas besoin de mon accord, arrange, trouve tes solutions. Maintenant, l'Oualida de sa fille lui dit, attends, je t'ai dit que c'était mauvais. Et la mère du fils lui dit, bah, tu n'as pas voulu épouser ta cousine, bien fait pour toi. Tu aurais dû m'écouter. Au lieu de réconcilier. Et le résultat, on a tellement de divorces dans la communauté et ça fait peur. Ça fait peur. Surtout lorsqu'il y a des enfants. C'est encore pire. C'est du désastre. Et donc, voilà. Donc, ce divorce, lorsqu'il a lieu après une seule fois, ou une deuxième fois, on l'appelle marij'i, révocable, ou divorce, irrévocable, non définitif. Mais il devient définitif, entre guillemets, après l'écoulement, comme j'ai dit, de la période de viduité, la iddatou, et qui est calculé par soit les menstrues, ou soit par les mois. Alors, il devient définitif. Dans quel sens? C'est-à-dire que la femme, à la fin de son troisième cycle, elle n'est plus dépendante sur le plan matrimonial de ce monsieur. C'est-à-dire, si quelqu'un demande sa main, elle a le droit de se marier, se remarier. C'est-à-dire, après l'écoulement de la idda, ce mari devient un étranger. Il n'a plus le droit à son intimité, ni à voir les parties de son corps à laquelle il avait droit avant le divorce. Il devient un étranger qui ne peut voir que les limites légales. Et c'est tout. Les mains et le visage. Et s'il vient demander sa main, tous les juristes sont unanimes. Après les trois mois de la Edda, ou les trois cycles, c'est un nouveau contrat, c'est une nouvelle date, c'est un nouveau mariage. Nahna Mskina al-Ukht, elle est divorcée, chassée. Après six mois, elle lui dit, je m'excuse, elle retourne, puis comme ça, peut-être baissée. Mais c'est plus ton mari. Normalement, c'est une nouvelle dot, c'est un nouveau mariage. Et elle retourne avec lui, croyant que c'est l'islam qui lui ordonne ça. Pas du tout. C'est un étranger, après les trois cycles. Ajnabi, dans le vrai sens du terme. Il vient demander la main comme n'importe qui vient demander la main. On l'accepte ou on le recuse. Si on l'accepte, donc c'est une dot, c'est un contrat avec les conditions qu'on a vues, et chez les Malkites, l'Eshhar et tout. C'est-à-dire l'annonce publique qui veut dire une festivité. Et Wali Matlahar, c'est tout. C'est ça en vérité. Pas respect à la femme. Beaucoup de parents ne connaissent pas cette procédure et beaucoup de sœurs ne connaissent pas cette procédure. Donc ce divorce, donc, nous avons dit, c'est celui qui a été énoncé dans la Sourate 2, le verset 229. At-talaq marratani, deux fois. Et donc il y a une révocation, ça sous-entend. Je ne vais pas revenir à la question de la révocation, puisque nous l'avons développée avec beaucoup d'éléments dans les derniers exposés. Donc, c'est un divorce qui a lieu, les divorces révocables, ou les divorces donc, effectifs, non définitifs, d'un mariage qui a été consommé. Bien sûr. Parce que si un homme divorce de sa femme, ils ont fait le contrat de mariage. Il y a un contrat officiel, dot et tout, mais ils n'ont pas consommé. Et malheureusement, ça arrive. Pour des désaccords, parfois, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer la futilité qu'il y a. Un désaccord sur une date ou sur un objet. La colère, elle lui dit divorce-moi, elle lui dit t'es divorcé. Alors qu'ils n'ont pas consommé, ils sont en train de préparer à la fête. Il y en a même qui divorcent alors qu'ils sont en train d'acheter les meubles. Désaccord autour des meubles. Ils divorcent, bien sûr. Nous avons dit, si c'est lui qui divorce, rappelez-vous, il doit lui laisser la moitié de la dot. Si c'est elle qui divorce, elle doit lui rendre la dot, sauf s'il se désiste, celui qui est entre ses mains. La consignation du contrat, on a dit, est-ce qu'il s'agit de mari ou de tuteur? On a expliqué ça la dernière fois. Et donc, ce divorce-là, il n'y a pas de redda, fille. Il n'y a pas de redda. Ils n'ont pas consommé. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre trois cycles? Donc, s'il y a divorce avant consommation, il n'y a pas de période de redda. La fille qui a été divorcée alors qu'ils étaient en train de préparer le mariage, et si elle est sûre de sa décision ou parce qu'elle s'est sentie opprimée, insultée, qu'il la divorce parce qu'ils sont mis en désaccord sur un buffet, et ils ont divorcé, elle dit, moi je ne retourne plus, et bien si demain quelqu'un vient demander sa main, elle se marie demain, hein, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de consommation. Nous avons dit que la redda est exigée, pourquoi? Pour être sûr que la matrice n'est pas porteuse d'un enfant, issu de ce lien matrimonial. Le but c'est, nous avons dit donc, ils disent vraiment, le but c'est de savoir s'il n'y a pas fécondation, s'il n'y a pas enfantement. C'est ça le but. Ibra al-Rahim, ils disent les termes techniques en arabe. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc le divorce, donc rij'i. Lorsque, je répète, il y a écoulement de ce divorce qui est révocable, et qui n'est pas définitif, c'est-à-dire ils peuvent se marier avec les conditions que j'ai citées, lorsqu'il y a écoulement de cette période de trois cycles, de trois mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le lien matrimonial est achevé. Fini. Et donc, tout lien matrimonial, il n'existe plus. Pendant la redda, les liens matrimoniaux sont encore là. L'homme a la priorité de faire la révocation de sa femme, c'est-à-dire de lui dire, on reprend vie conjugale, puisqu'elle est sous son toit. Si elle refuse, c'est-à-dire, alors c'est elle qui ne veut plus revenir. Donc, elle va agir à ce moment-là par le biais de ce qu'on appelle khola. C'est elle qui demande le mariage, le divorce à ce moment-là. C'est pour ça qu'une musulmane ne peut pas refuser la révocation, puisqu'elle vit avec son mari. Si elle refuse la révocation, c'est qu'on passe maintenant à une autre situation, c'est une femme qui demande le divorce, ce n'est plus l'homme. Et donc ça devient khola. C'est une autre affaire là. Et concernant cette période de révocation, ce sont des rappels que je fais ici exprès. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'aucun homme ne peut faire allusion d'une manière explicite ou par allusion à cette femme qui est en période de viduité et qui vit encore avec son mari, il ne doit pas faire allusion qu'il voudrait bien demander sa main. S'il fait ça, il a commis un haram, un péché majeur. Et nous avons vu les positions des écoles, même certains comme l'école malikite, ils demandent, même si elle, après l'edda, elle se marie avec celui-là qui lui a fait allusion pour l'encourager à ne pas revenir à son mari, ils demandent l'annulation de ce mariage. Parce qu'il a commis un haram. Parce que l'ordre de Dieu est formel. Dieu dit wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Et leur époux ont droit et priorité de reprendre vie commune avec leur épouse. Et donc le musulman qui vient se mettre entre un époux et une épouse et son épouse, il a commis un interdit grave. Et je répète, on comprend toute la sagesse divine, surtout lorsqu'il y a des enfants là-dedans. Pendant cette aide, j'ai dit que chacun hérite de l'autre, s'il y a décès. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a divorcé, ou une personne a divorcé d'un divorce irrévocable, mais on l'appelle non définitif, avant consommation. Et puis il vient demander sa main de nouveau, il peut, puisqu'il n'est pas définitif. Il est irrévocable, non définitif. Il n'est pas équivalent au troisième divorce. Donc il a demandé la main d'une sœur, ils ont écrit le contrat, et ils étaient sur le point de se marier, puis il y a eu divorce. Est-ce qu'il peut la redemander? Bien sûr, il peut la redemander au mariage avec un nouveau contrat. C'est clair, il peut. Puisque c'est un divorce, il n'y a pas eu de consommation. Bien. Le divorce maintenant, ce qu'on appelle Bibaynuna Kobra. C'est-à-dire, c'est le deuxième divorce. Il y a eu avant une première, une deuxième, et puis il arrive à la troisième, il dit t'es divorcé. Alors là, ça s'appelle, c'est un divorce irrévocable définitif. Si c'est après une ou deux, je l'ai appelé irrévocable non définitif. Après l'écoulement de la Hedda. S'il demande et se réconcilie pendant la Hedda, c'est un divorce révocable. Pendant la Hedda, puisqu'ils vivent ensemble encore, ils mangent ensemble, ils sont sous le même toit, il est révocable. Après la Hedda, il est irrévocable mais non définitif. Après la troisième fois, il devient un divorce irrévocable définitif. C'est-à-dire que cette femme devient pour de bon étrangère. Tout de suite. Elle n'attend pas la Hedda. Elle va faire sa Hedda, ça c'est clair. La Hedda est nécessaire. Hein? À la suite d'un troisième divorce irrévocable définitif, la Hedda est toujours exigée. 3 mois ou 3 cycles menstruels. Mais elle ne reste plus dans le foyer conjugal. Tout de suite, il devient étranger, ce monsieur. Fini. Tout de suite. Donc, elle va chez ses parents. Il n'a plus aucun droit sur elle. Aucun. Mais elle doit respecter la Hedda. Elle ne peut pas se marier pendant la Hedda. Si elle le fait, elle a commis un haram. Bien. Ce divorce, lorsqu'il a lieu, donc il est effectif, nous avons dit, et ses conséquences sont les suivantes. Vous avez la sourate Al-Baqarah, verset 230. Sourate 2, verset 230, tu nous dis, s'il y a eu donc la troisième fois, « فَلَا تَحِلُّ لَهُ » Elle lui est plus permise, « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » Elle est haram pour cet homme, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme que lui. Ça, c'est la sanction divine pour cet homme qui n'a pas respecté, s'est précipité à divorcer 3 fois, ou pour cette femme qui a joué ce jeu, en l'incitant peut-être à la divorcer. Parce qu'il y a des femmes, gens que je n'ai connu des situations, le mari, il s'enfuit, elle lui dit « Talakni, talakni !» Lui, il va dans le couloir, mesquino, il est derrière lui, « Talakni !» À la fin, elle lui dit « Antitalak !» Ben, il a lieu le divorce. Et après qu'il y a lieu, elle dit « Je regrette. » Oui, mais c'est un peu tard. Donc, on a, donc lorsqu'il a lieu, donc, après cette troisième énonciation, donc, le verset est clair, « فَإِنْ تَلَّقَهَا » C'est-à-dire la troisième fois, « فَلَا تَحِلُّ لَهُ » Elle lui est plus permise. « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme que lui. Et nous avons expliqué dans les mariages interdits, islamiquement, le mariage d'un muhallil ou al-muhallil lahu. C'est-à-dire, ce qu'on appelle dans certains pays musulmans taïs, c'est le bouc, le faux bouc, comme taïs. C'est-à-dire, c'est un homme qu'on loue, on lui dit voilà, dans l'islam, je suis musulman, mais je ne peux plus répondre vie commune avec ma femme, mais je ne veux pas qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre qui consomme avec elle, je te paye, et tu vas écrire le contrat, mais tu ne la touches pas. C'est même pas, il lui dit tu passes la soirée avec moi. Hein, il passe la soirée avec lui, et le lendemain, il lui dit anti-talaq. Il la divorce. et ils font le contrat de divorce, le document de divorce, et puis ils se remarient avec elle. Et bien notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui a recours à ce système, ce procédé, pour se rendre licite sa femme, et celui qui accepte d'être utilisé comme moyen pour rendre licite une femme à son mari. Et vous savez très bien, que les choses soient claires, al-la'natu, qui nous est interdit d'utiliser à la légère, et que nous ne pouvons maudire que ce que Dieu et son prophète ont maudit. Nous ne pouvons pas maudire nos enfants, nous ne pouvons pas maudire notre bête, nous ne pouvons pas nous maudire nous-mêmes, nous ne pouvons pas maudire les musulmans, c'est interdit, c'est un péché majeur. Pourquoi ? Parce que c'est un serment grave. Al-la'natu hiya tardu min rahmatillah. Al-la'na, c'est-à-dire vous demandez que cette personne soit pourchassée pour l'éternité de la miséricorde de Dieu. Ça se dit al-la'na. Et lorsque notre prophète maudit, c'est pas n'importe qui ici. Il a fait une invocation contre celui qui fait. Donc il a invoqué que Dieu subhanahu wa ta'ala n'accorde jamais sa miséricorde à celui qui recourt à ce système. Ça veut dire. Donc, et ici, les deux parenthèses que j'ai ouvertes, faites attention, n'utilisez pas à la légère l'ana. Qala sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète a dit de ne pas invoquer le mal sur nous-mêmes, ni sur vos enfants, ni sur vos bêtes, il a dit. Ça peut coïncider avec un moment d'acceptation et Dieu exauce. C'est-à-dire au moment où, lorsque un parent, malheureusement, et on entend ça dans certains pays, au moment de la colère, dit à son fils ou à sa fille, Allah yil'anak, Wallah, Allah yil'anak, que tu ne réussisses jamais. Et vous savez très bien que les invocations des parents sont exaucées. Le prophète a dit, si ça coïncide avec un moment d'acceptation, Dieu accepte l'invocation. Et après, on ne doit pas être surpris de voir des enfants maudits, ratés, détruits par les invocations de leurs parents. Il a dit, la tad'ou ala anfusikum, la tad'ou ala abna'ikum. Il ne faut pas invoquer. Il y a une femme qui avait maudit sa chamelle, et le prophète l'a su, son salam. Il a dit, ne vous approchez pas d'elle, elle est maudite, pour la chamelle. On ne doit pas. Donc ici, la salam invoque la malédiction de Dieu pour celui qui recourt à ce système. Donc, on n'a plus de possibilité. Il a dit, de salam, qu'un homme ne peut pas divorcer d'une femme, hatta, je dis le texte, qui est un hadith sahih, hatta tazouqa usaylatahu, wa yazouqa usaylataki. C'est le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est une femme qui a été divorcée, c'est la femme de Rifa', un compagnon. Et elle a voulu revenir à Rifa'. Le prophète lui a dit non, il faut que ton nouveau mari goûte à toi et tu goûtes à lui. Si je traduis littéralement le terme. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hatta tazouqi usaylatahu wa yadhouqa usaylataki. Rapporté mutafaqun alayhi. Bukhari et Muslim. Et on comprend donc pourquoi il a maudit. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ça, Rasoul ? Pour nous faire peur. Pour qu'on n'ait pas la besoin de divorcer, de séparer de sa femme. Avant qu'on le regrette après. Mais tu ne veux pas vivre cette situation ? Alors maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Et toi, ô femme musulmane, maîtrise-toi, ne pousse pas ton mari. Et ne laissez pas tous les deux shaitan, la'anahullah, interférer dans votre couple et vous pousser à la désunion. Que vous regretterez, mais Dieu subhanahu wa ta'ala, ses sentences sont définitives, sont irrévocables. Donc le texte, il est clair. Donc, on appelle cette situation, ils appellent ça, les savants, mas'alat al-hadm. Al-hadm, destruction. Al-hadama, c'est détruire, casser. Donc, on ne peut plus reconstruire que c'est cassé qu'il y a consommation réelle, mariage réel, puis après. Donc ça, c'est la première conséquence d'un divorce irrévocable définitif. L'union matrimoniale, elle est finie. Il n'y a plus la période de viduité, elle est là, mais la femme n'est pas tenue de vivre avec ce mari, il n'a plus de droit sur elle puisque la séparation, elle est tout de suite. Donc, il n'y a plus de traces de cette union, sauf le fait de payer. L'homme doit s'acquitter s'il y a un reste de la dot. Parce que vous savez très bien, on en a parlé, la dot peut être versée tout de suite, elle peut être reportée à moitié ou tout entière, il n'y a aucun problème, mais c'est une dette. Et donc, par le divorce, Par ce divorce irrévocable définitif, ou le divorce irrévocable non définitif, la dot de Sadaq doit être versée tout de suite, à la fin. Autre conséquence, il n'y a plus d'héritage entre eux. S'il y a veuvage ou décès entre-temps. Ils sont devenus deux étrangers. Ce qui n'est pas le cas pour un premier divorce et un deuxième divorce dont on avait parlé pendant la Edda. Tandis que là, la Edda, c'est pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, mais il n'y a plus de conséquences, c'est qu'il y a héritage éventuellement, ni nafaqa, ni prise en charge. Tandis que dans le premier, oui, la prise en charge, elle est toujours là, et s'il y a veuvage ou décès entre-temps, il y a héritage de part et d'autre. Tandis que là, il n'y a plus de tawarif, pas de succession de chaque côté, et il n'y a pas de prise en charge, nafaqa. Il y a uniquement la aide pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. C'est tout. Maintenant, il y a une question que nous savons, rahimahullah ta'ala, ils ont débattu, c'est qu'il y a par exemple un homme, il a eu des situations avec sa femme, et il tombe malade d'une maladie incurable. Et il sait, plus ou moins, Allahu a'lam, d'après les spécialistes, que c'est dans 6 mois, dans 1 an, il va décéder. Wal-amar bi-yadillah, subhanahu wa ta'ala. Alors il décide, pendant cette maladie incurable, de divorcer. Est-ce que ce divorce, il est considéré valide ou non selon les juristes? Pourquoi ils ont débattu de ça? Parce que certains juristes, ils ont dit, ce divorce, dans une situation pareille, il ressemble à un règlement de compte. Et l'islam n'accepte pas le règlement de compte où on prive quelqu'un de ses droits, légaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a consigné. Et donc, on appelle cette mas'ala, on appelle ça talaq al-marith, maradul maut. Ce n'est pas le marith uniquement, marith, tout le monde tombe malade. Mais c'est un marad de mort. C'est une maladie dont il va s'en suivre un décès. Est-ce que ce divorce a lieu? Ils ont débattu de ça même lorsqu'il s'agit d'héritage. Un homme ou une femme, pour l'héritage ici, il ou elle est atteint d'une maladie incurable dont il est sûr et certain, il n'échappera pas, ça finira par un décès vraiment à court terme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de modifier son héritage. Est-ce que c'est acceptable? Ils ont dit que beaucoup de savants disent non, on n'accepte pas les modifications parce que ça ressemble à un règlement de compte. Et pour la femme, ici, c'est ça. Ils ont vu qu'il y a un règlement de compte, peut-être, par lequel on veut nuire à cette femme, éventuellement. Donc, ils ont débattu. Alors, et les positions de droit, de véridiques, sont les suivantes. Ils lui ont donné un surnom, ce divorce-là. Ils l'ont appelé Talaq al-Far, le divorce du fuyant. Il veut fuir des responsabilités ou des devoirs. C'est quelqu'un qui veut fuir certaines responsabilités, alors ils ne le valident pas, certains. Mais on va voir leur position. Les Hanafites, ils disent ce divorce d'une maladie incurable, il est considéré non acceptable jusqu'à la fin de sa edda uniquement. C'est-à-dire, imaginons la femme, elle est divorcée, elle est dans sa edda, et c'est un divorce irrévocable et définitif, et il est malade d'une maladie incurable, il a fait ce divorce à 3 fois, pour qu'il n'y ait plus de lien, rien du tout, il efface toutes les traces. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les Hanafites disent non. Les 3 cycles, s'il est encore vivant durant les 3 cycles, et tant qu'il y a la edda qui la lie à lui, elle a des droits toujours. Après la edda, elle n'a plus de droits. On parle de l'héritage ici. Hein. Les malikites, eux, ils vont plus loin. Ils disent non, elle a ce droit même après l'Edda. C'est-à-dire s'il meurt à 4, 5, 6 mois de cette maladie incurable, elle aura le droit à l'héritage. Puisqu'ils disent, c'est que s'il a divorcé, c'est qu'il y a... Parce qu'en général, lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable et qu'il y a un bon lien, le premier soutien qu'on a en général, c'est sa femme ou c'est son mari. Hein. Normalement. Il y a des gens, lorsqu'il y a une maladie incurable, ils prennent la fuite. Ils se débarrassent de leur épouse ou de leur époux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas loyaux, malheureusement. Alors que la loyauté exige que lorsqu'on a un mari ou une femme qui nous aime ou un mari qui nous aime, c'est à ce moment-là qu'il doit être à nos côtés, islamiquement. Lorsqu'on regarde Sayyidina Muhammad, il est mort entre les bras de Sayyidina Aisha, radiallahu anha. Sayyidina Abu Bakr est mort entre les bras de sa femme. Sayyidina Othman est mort entre les bras de sa femme, radiallahu anhu. Et ainsi on voit Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beaucoup de compagnons, on a leur vie, c'est leur épouse qui était là. C'est l'épouse qui était là. Ou l'époux qui est présent. Mais lorsqu'on fuit, alors c'est les autres. Et donc, pour les Malikites, il n'y a pas de loyauté là-dedans. Alors ils disent, même après l'Idda, elle a toujours les deux droits. S'il s'agit d'un divorce qui a eu lieu dans une maladie incurable à laquelle, qui va être suivie par une mort. Donc ça, c'est la position des Malikites. Les Hanbalites, ils vont plus loin. Ils disent, tant qu'il ne s'est pas marié, elle est toujours sa femme. Et alors, d'autres disent, tant qu'elle ne s'est pas mariée, c'est-à-dire, imaginons, après 2 ans, elle n'est pas encore mariée, cette femme. 2 ans, elle n'est pas encore mariée. Et il l'a divorcée d'un divorce d'une maladie grave, qui va finir par la mort, par le décès. Et bien, tant qu'elle ne s'est pas mariée, toujours elle a des droits. C'est-à-dire, on parle ici des successions, l'Elf. Ça va? Ça, c'est le Hanbalite. Les Shafi'ites, dans le nouvel avis, vous savez très bien que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, puisque n'oubliez pas qu'il était le maître de la pensée juridique musulmane, c'est-à-dire de la science de Usul Fiqh, celui qui a systématisé, qui a organisé ce ilm, cette science, qui est un des outils les plus importants pour l'érudit, pour le mujtahid, la science de Usul Fiqh, c'est l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et donc l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a pris en considération une règle qui dit ce qui suit. Al-fatwa, ou l'avis juridique, yataghayyaru bi taghayyur az-zaman wal makan. L'avis juridique, il change par rapport au lieu, par rapport aux circonstances, et même par rapport aux personnes parfois. Change, tataghayyar. Donc la même question, il peut donner un avis, puis à un, puis un avis à l'autre. Parce qu'il y a des détails qui font qu'on n'a pas le même avis. Et de toute façon, ils sont inspirés de la sallam, de son comportement, de ses avis. Et il y a des gens qui viennent lui poser la même question, il donnera des réponses différentes. Et donc, le même chef est sur des questions juridiques. Il avait donné un avis lorsqu'il vivait à Bagdad, en Irak. Et lorsqu'il s'est installé en Égypte, il a donné d'autres avis sur les mêmes questions. Alors, les chefs, pour nous faire la différence entre ces avis, ils disent « هذا المذهب القديم » ça c'est l'ancien avis « وهذا المذهب الجديد » c'est le nouveau avis de l'imam Shafi. Dans son nouveau avis qui a été consigné comme étant l'avis pris en considération dans lequel Shafi hérite, elle n'hérite pas. Ils disent, il a pris sa décision, c'est son choix, il est libre et donc ils disent elle n'hérite pas. Maintenant, imaginons ce monsieur qui a divorcé sa femme dans cette maladie incurable dont il est sûr qu'il ne va pas échapper, et entre-temps c'est sa femme qui est morte. Est-ce qu'il l'hérite ou non? Pas du tout, toutes les écoles disent non, il n'hérite pas. Oh, ouais, il a joué le jeu, il voulait la priver, et lorsqu'elle meurt, il va dire à ma part de l'héritage. Mais non. Donc, le débat, il est si c'est de droit à elle. Mais lorsque c'est la femme qui décède pendant cette période, et lui est encore en vie, il n'hérite pas d'elle. C'est l'avis de toutes les écoles. Et moi, je trouve que c'est le moindre justice. Donc ça, c'est concernant donc cette question concernant donc le divorce du malade, d'une maladie incurable. Il nous reste, inshallah, un peu de temps encore pour après vous donner la possibilité de poser des questions. Imaginons quelqu'un maintenant, il divorce, il atteint cette maladie incurable dont il est sûr qu'il n'échappera pas et il épouse une deuxième femme et il meurt. Donc il a une qu'il a divorcée alors qu'elle avait des droits et il y a une nouvelle épouse. Abu Hanifa et l'imam Ahmad, il dit tant que c'est pendant la Idda, toutes les deux l'héritent. Toutes les deux vont hériter de lui. Ben, c'est normal, si après la Idda, c'est fini. Un avis de l'imam Malik, il dit tout l'héritage, entre guillemets, revient à la première divorcée. Pourquoi? Parce qu'il dit son mariage pour nous, il est invalide. Parce qu'un homme qui va mourir, il se marie, c'est qu'il y a une combine, disent les malikites. Soit il s'est fait embobiner par une jeune plus belle, etc. Ou soit il y a des gens de la famille qui ont poussé à pousser la cousine, ou je ne sais pas quoi. Donc ils disent, les malikites, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette affaire. Quelqu'un qui va mourir, se marier, ce n'est pas clair. Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, voilà, et on va mourir, on n'a pas la tête de se marier. Donc si c'est marié, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Et la première, elle a été divorcée injustement pour la priver de son droit. Et la deuxième, elle en profite, et ben, disent les malikites, pour nous, son mariage, il est invalide. Et son divorce est invalide. Donc c'est à la première qu'elle a le droit d'avoir le droit à la succession. Ça, c'est l'avis des malikites sur cette question. On va passer à un autre point maintenant pour vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont essayé de mettre des obstacles pour qu'on ne se précipite pas et on ne se presse pas à divorcer, de divorcer. Donc, le législateur, donc, il a mis donc, des limites pour qu'il n'y ait pas d'excès ni de précipitation dans le but de préserver l'union conjugale et de là préserver la famille musulmane. Comme l'islam, il a incité les musulmans à se marier et que le seul moyen pour qu'ils puissent y avoir cohabitation entre un homme et une femme, c'est le mariage, eh bien, il va faire tout pour préserver cette union à laquelle il a incité les musulmans et les musulmanes d'y recourir. Et pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit dans mon introduction, le mariage est un lien sacré. Il s'établit au nom de Dieu. Nous nous tazawajou bi'ahd Allah. Et un engagement vis-à-vis de Dieu. Et on essaie de suivre les commandements de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait du mariage sa sunna. Par la sallallahu sunnati. C'est ma sunna. C'est ma règle de conduite. Il a dit aux musulmans et aux musulmans, tanakahu, mariez-vous, engendrez-vous. Tanasalu fa inni mukathir bikum al-umama yawm al-qiyama. Je vais me vanter de votre nombre auprès des autres communautés au jugement dernier. Donc cette religion qui incite les musulmans à se marier, c'est normal qu'elle va mettre des obstacles et essayer de ne pas les laisser se précipiter à mettre fin. C'est pour ça que il a demandé qu'on suit la procédure de 3 étapes. Une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc c'est cela. Ils disent, nous savons, il ne faut pas que le divorce ait lieu que pour une raison légale et légitime. Il ne faut pas divorcer et se marier pour le plaisir. Ana, j'aime me marier, j'aime divorcer. Ce n'est pas un jeu. Sayyidina Ali radiallahu anhu a dit aux musulmans de ne plus donner leur fille à Sayyidina Hussein. Parce qu'il était mutlaq. Il divorçait beaucoup. Mais les gens donnaient parce qu'ils voulaient avoir l'honneur d'avoir la lien d'alliance avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et du petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, Sayyidina Ali dit, il ne faut pas lui donner vos filles au mariage. C'est clair ? Donc c'est pour ça, la vie majoritaire absolue chez les savants musulmans, il ne faut pas recourir au divorce que vraiment pour une cause justifiée. Il faut qu'il y ait une motivation légalement admise. Nous avons par exemple chez les Hanafites, rahimahullah ta'ala, donc ils disent les Hanafites, en vérité la statue de base, nous avons vu que le statut de base c'est la répréhension du divorce, on en a parlé. Le hadith de Rasulullah, il est clair, il a tranché, on ne va pas en débattre, il a dit « Abradul halal et andallah et talaq ». La chose qu'Allah la désapprouve le plus alors qu'elle est licite, c'est le divorce. Donc le statut de la grande majorité « annahu makruh ». Mais les Hanafites, tellement ils tiennent, on a des savants comme Ibn al-Humam, Ibn Abidin, des grands savants de l'école Hanafite, ils disent pour nous, en vérité, le statut de base du divorce, c'est Al-Hadr. Al-Mahdhur, c'est synonyme de l'Haram. Al-Mahdhur ou Al-Haram, ce sont deux termes synonymes. Pour eux, chez nous, ils disent le divorce, il est interdit. On ne se marie pas pour divorcer. Et moi, je comprends très bien la position de l'école Hanafite qui donne beaucoup de droits à la femme. On est beaucoup au niveau surtout de mu'amalat, des transactions, on voit que la femme a dans le droit fiqh hanafite beaucoup de possibilités. Et bien sûr, avec des arguments, des textes de la loi. Et donc, c'est normal qu'on voit qu'ils vont cette position. Ils disent, et certains disent, pour nous, il est non conforme à ce qui est meilleur, même. Femme, le terme technique en arabe, on dit khilaf al-awla. L'awla, c'est de ne pas faire. Et tu as fait, toi, ce qui s'oppose à ce awla. Donc, il y a ce qui est bien, et toi, tu agis d'une manière légale, mais qui n'est pas bien. C'est ça ce qu'on appelle khilaf al-awla. C'est pas conforme à ce qui doit être fait, ce qui est meilleur. Donc la position des Hanafites, comme Ibn al-Humam l'a dit Ibn Abidin, ils disent pour nous même le Hadr, même Noah, interdit. La majorité, nous avons dit, c'est la répréhension ou ce qu'ils ont appelé Khilaf al-Awla, c'est-à-dire sinon conforme à ce qui doit être fait. Parce que l'islam tient à l'union familiale. Et nous avons, je vous ai cité ça une fois, et je vous ai dit qu'il y a un hadith. Et ce hadith, il est jugé comme même sahih. Mais en vérité, c'est pas, il ne faut pas le prendre à la lettre. J'en avais parlé, mais je le répète. Le hadith au sallam est le suivant. Il dit, dans lequel le prophète dit, « Ayyuma mra'atan sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghayri ma ba'sin fa haramun alayya raihatul jannah. » Toute femme qui demande à son mari son divorce sans aucune raison, elle ne sentira pas et lui sera interdit l'odeur du paradis. Je vous ai dit, ne prenez pas ce hadith à la lettre. C'est pas moi qui le dis, c'est l'imam Shawkani qui le dit et d'autres. Ils disent, c'est pas que la femme ne sentira pas l'odeur du paradis. Non, ils disent, c'est une formulation par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que c'est un acte grave, grave qu'une femme veut se séparer sans raison. Comme le hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans le sunan, qital al-sibab al-muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman ou une musulmane, c'est de la perversité. Le combattre, il a dit, c'est de la mécréance. Tous les savants sont unanimes qu'il ne faut pas prendre ici le terme mécréance dans le sens que celui qu'on combat un musulman, il est mécréant. Non. Ils disent, c'est pour montrer la gravité de l'acte. Mais un musulman qui se bat contre un musulman, ils ne sont pas mécréants. Et ils citent comme argument, j'en avais parlé, le verset de la sourate 49, l'Hujurat, dans lequel Dieu dit, « Wa in ta'ifatani min al-mu'minin aqtatalu » Donc Dieu dit, deux groupes de musulmans se battent. Il ne leur a pas enlevé la qualité de musulmans, ils disent. Donc il est sûr et certain que Dieu va les sanctionner. Mais ce n'est pas qu'ils n'entreront jamais au paradis, ils ne sentiront pas l'odeur. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est clair. Ce hadith concernant la femme a été dit par Rasulallah pour montrer à la femme qui demande un divorce d'un mari qui est respectueux, qui est un bon époux, qui est doux, qui est un bon père de famille, comme ça pour le séparer, elle a commis un acte grave. Parce que s'il est une union où tout va bien, ça ne marche plus, alors comment est-ce que ça va marcher cette communauté musulmane? Si le type il dit « je veux plus de ma femme » alors qu'il lui aurait fait aucun tort, et si la femme dit « je veux plus de mon mari » alors qu'il lui a fait aucun tort, mais alors quoi, c'est quoi ces unions? Elles sont faites au nom de quoi? Si elles sont faites au nom de l'islam, on ne doit pas se séparer d'un bon mari, ni d'une bonne épouse. Rappelez-vous pourquoi. Parce que le prophète a dit « un homme cherche une femme » Il a dit, la femme, elle est recherchée en mariage pour quatre choses. Pour sa beauté, pour sa richesse, pour son nom de famille et pour sa religion. Il a demandé à l'homme de chercher celle qui a la religion. Et puis il lui a dit, sinon tes mains, elles seront vides. Et pour la femme, on lui dit à elle, à son tuteur, si celui qui vient demander votre main, ou la main de votre protégé, est un homme dont vous agréez, quoi? Dinahu wa amanata wa khuluqahu. Religion, amana, loyauté et khuluq, bon comportement. Donnez-lui. Alors si une femme elle a la religion que le prophète a recommandée, sallallahu alayhi wa sallam, et l'homme elle est de bonne religion, et puis il se sépare, elle se sépare de lui parce que j'ai plus envie de lui. Et lui, il se sépare d'elle en disant j'ai plus envie d'elle. Mais alors la recommandation de la sallallahu alayhi wa sallam, elle tombe dans l'eau. Et qu'on ne parle plus à ce moment-là de mariage islamique. Parce qu'un mariage islamique se fait sur quelle base? Et sur base de l'islam et de la piété, recherchée chez l'un et chez l'autre. Et on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam menace alayhi wa sallam en disant, eh ben, elle sentira pour dire, mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Il est bon en Paris, il est bon musulman, il est bon pratiquant, il est plein de douceur, affectueux, il n'est pas celui qui est absent sans arrêt. Je l'aime plus parce qu'il me semble le plus beau, parce qu'il a un peu de graisse dans son ventre. Ou on a la sœur qui vient se plaindre, elle dit, mon mari veut divorcer, pourquoi? Parce que j'ai allaité les enfants. Et on a trois gosses déjà, alhamdoulilah, et mon mari trouve que je n'ai plus une belle poitrine, il veut divorcer. Il mérite le bastonnade pour moi. Un mari qui veut divorcer de sa femme parce qu'elle n'a plus une belle poitrine, alors qu'elle a allaité ses enfants pour en faire des enfants de qualité, même au niveau de leur santé, suivant les recommandations coraniques, et il la largue à cause de ça, moi je trouve que c'est pas un mari qui est plein de loyauté, il ne mérite même pas respect. Donc si on arrive maintenant à ne plus retenir notre ménage, notre femme, ou notre mari, à cause de descriptions ou de futilité physique, on le compare à celui qu'on voit à la télé ou qu'on voit à la télé, c'est celui d'un homme ou d'une femme. Mais alors là, on ne parle plus, comme j'ai dit, du ménage musulman, on parle de tout sauf de ménage musulman. Parce que nous, on épouse, d'accord, la beauté. Il faut que la personne nous plaise, comme a dit Rasoul Sallam, à son compagnon, dire, retourne et regarde là. Mais ce n'est pas l'élément fondamental. Tout le monde vieillit. Tout le monde, sa peau commence à se dilater et tout, avec la régénérescence musculaire et tout le bazar. Tout le monde arrive à ça. Tout le monde a les cheveux blancs. Quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire de la chirurgie esthétique dès qu'on arrive à 40, 50 ans. Et de toute façon, je vais vous dire, moi, comme confidence, hein, parmi les questions que je reçois sans arrêt, c'est cette question-là. T'as des musulmans qui te posent des questions pour être belle à son mari alors qu'elle a... Et t'as le mari qui demande des choses et tu dis, mais là, 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 où est-ce que nous sommes là? Les gens qui veulent changer de peau, la femme qui veut changer de denture, de yeux, de poitrine. Et t'as le mari qui lui pose des questions, est-ce que je peux faire la teinture ou non? Parce que sa femme n'assume pas la blancheur de ses cheveux. Mais c'est quoi le harir entre les musulmans? Alors que les vrais musulmans, ils n'ont jamais posé cette question. On se marie pour la vie et on assume notre vieillesse. Même parmi les signes de la grandeur de l'islam, nous on se targuait que nous sommes des musulmans. Les musulmans, ils assument leur évolution dans le temps. On assume notre âge, notre jeunesse, notre âge adulte et notre vieillesse. Apparemment, il y a des musulmans qui ne veulent plus assumer leur vieillesse. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, comprenez le hadith de la sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une menace que la femme n'entrera pas au paradis. C'est pour lui dire que c'est grave ce que tu fais et comme tu agis. Et c'est ce qu'a dit l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Il dit en vérité, c'est parce qu'elle a demandé à son mari quelque chose de très grave, d'interdit. Et non pas parce qu'elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Il a dit ça dans le tome 6, la page 221, pour dire que vraiment la femme qui demande sans aucune justification, elle commet un interdit grave. Et donc il rejoint quelque part les Hanafites de leur position. Parce que ceci est conforme en vérité, cette position, elle est conforme aux finalités de l'islam, recherchées par le mariage. Nous avons dit qu'une des conditions de validité du mariage, niyat al-ta'bid, que l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, doivent formuler l'intention de faire durer leur union. On doit faire durer, on doit formuler lorsqu'on écrit son contrat, que moi je me marie pour la vie. Je ne me marie pas pour 12 ans, ou pour 5 ans, ou pour 3 ans. Pour la vie. Alors lorsqu'on a un projet de vie avec sa partenaire ou son partenaire, on ne demande pas le divorce pour rien du tout. Déjà, pour des futilités, il y a, on considère ça comme une attitude non conforme à l'islam. Que dire lorsqu'il n'y a pas aucune justification? Parmi les autres limites que le législateur a mis pour que le divorce, qu'on ne se presse pas de divorcer, c'est que le divorce, s'il doit être conforme à la sunna, il faut qu'il ait lieu lors de ce qu'on appelle la purification cyclique, tahr. C'est-à-dire, il ne faut pas que le divorce ait lieu alors que la femme est menstruée. Hein? Il ne faut pas que le divorce ait lieu lors d'un cycle où on a eu des rapports avec sa femme. Si on veut agir de manière conforme, il faut que ce soit dans une période où il n'y a pas eu de rapport et la femme, elle est pure, purifiée de son cycle menstruel. C'est ça la règle. Et c'est exprès pour limiter, pour qu'un homme, celui qui veut suivre la sunna, même s'il a l'intention de divorcer, il dit « je ne divorce pas, parce qu'on a eu des rapports dans ce cycle, j'attends le cycle prochain. » Alors l'islam, qu'est-ce qu'il veut? Mais pour qu'entre-temps, peut-être tout va s'arranger, alhamdoulilah, il n'y aura pas de divorce. C'est clair? Maintenant, je vous ai dit la position. Imaginons qu'il a divorcé pendant ce cycle, que la femme est dans son cycle menstruel, ou c'est un cycle pendant lequel ils ont eu des rapports. Je vous ai dit que le divorce a lieu, comme punition. Sayyidina Abdullah ibn Omar a divorcé de sa femme alors qu'elle est menstruée. Le prophète s'est fâché, sallallahu alayhi wa sallam, sur Abdullah ibn Omar, mais le divorce a été comptabilisé. Il a eu lieu. Et c'est un divorce considéré bid'i, d'innovation. Et lorsqu'on parle d'innovation, c'est qu'il y a péché. Mais le divorce conforme à la sunna de Rasoul sallam, c'est qu'il divorce sa femme, c'est-à-dire lui, il a la tête claire et elle a la tête claire. Parce que la femme, lorsqu'elle est pendant son menstrue, elle peut, à cause d'un dérèglement hormonal, s'énerver facilement. Et c'est ce que nous disons sans arrêt à beaucoup de frères qui veulent se marier, qui ne connaissent pas la femme. On leur dit, faites attention, lorsque vous allez vous marier, votre femme peut changer d'humeur, sans le vouloir. Ne sois pas injuste envers elle et tu la condamnes pour des humeurs qu'elle ne maîtrise pas à cause du cycle. Alors, c'est pour ça que l'islam a dit, il ne faut pas divorcer sa femme pendant son cycle menstruel. Parce que tu la juges de quelque chose peut-être dont elle n'est pas responsable réellement. Donc il faut agir en dehors du cycle menstruel. Et un cycle où on n'a pas eu de rapport. Et donc ça limite, vous voyez, ça c'est pour limiter et pour qu'on ne se presse pas d'aller vers le divorce. Donc, et les hadiths sont là. Et donc j'ai cité donc la situation de Abdullah ibn Omar. Le hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud al-Nasa'i et autres, il est jugé sahih. Je vais conclure, inshallah, aujourd'hui par une question. Je vous ai dit que la manière de divorcer, le principe, c'est que le divorce, conforme à la sunna, c'est qu'il se passe séparé, c'est-à-dire dans différentes situations et moments, et une, deux, trois, et qui ne doit pas être énoncé par la formule triple, séance tenante. Et je vous ai dit que les savants musulmans contemporains, et on trouve trace dans les écoles juridiques, si un homme prononce séance tenante une formulation triple, son divorce est considéré équivalent à un seul divorce pour préserver les familles, et que ce que Sayyidina Omar a fait, c'était un ijtihad de sa part, radiallahu anhu, de lequel se sont détournés Sayyidina Othman après lui et Sayyidina Ali et les savants musulmans. C'est pour punir un excès. Mais les juristes, ils ajoutent quelque chose. L'homme qui agit ainsi a commis un péché et il mérite sanction de la part du juge musulman. Alors, la sanction, c'est quoi? Ça s'appelle ta'zir. Le ta'zir, ce sont les punitions que définit le juge en dehors des peines légales. Les peines légales, ça s'appelle le hudud, qui sont définies par Allah, subhanahu wa ta'ala. La peine de l'homicide volontaire, la peine de l'homicide involontaire, la peine du vol, la peine de la fornication, marié ou célibataire, la peine du grand banditisme, brigandage qu'on appelle le hiraba, la peine de l'apostasie, la peine de la consommation des boissons enivrantes, en public bien sûr, pas en privé. En privé, ça ne nous regarde personne. C'est une affaire entre celui qui boit et Dieu, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas mission ni fonction d'aller espionner les gens chez eux. La peine qu'on appelle de l'accusation mensongère de fornication. Lorsqu'on accuse un homme, une femme mariée, innocent d'être infidèle à leur conjoint alors qu'on n'a pas de preuves. Il y a une sanction de punition de coups, de fouet, hein, qui arrive jusqu'à 100. C'est clair? Et donc, voilà, ça s'appelle le hudud, sharia. Et le hudud, c'est pas les juges ni les hommes qui les définissent. Leurs circonstances et tout sont définis par Dieu. Ils ne sont appliqués que lorsqu'il y a un système, un état musulman et un système de justice qui va avec. Les enfants, les gens ne peuvent pas se l'appliquer entre eux. Un jeune qui commet zina et puis il regrette, il vient à ses copains, je me suis repenti, fouettez-moi. Non, ça n'existe pas en islam. Il demande pardon à Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc les peines légales ne s'appliquent que dans un contexte d'une société musulmane, d'un état musulman et d'un système judiciaire musulman. Et puis, dans ce système-là, vous avez des peines qui ne sont pas définies ni par Dieu ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le juge lui estime selon l'intérêt, le maslaha. Ça s'appelle ta'zirat. Ça peut être des amendes, ça peut être des emprisonnements, comme ça peut être des bastonnades. Et c'est à lui de les faire changer selon les époques et les situations. C'est clair? Ça s'appelle ta'zirat. Donc ils disent, celui qui prononce séance tenante, la triple formulation, il a agi d'une manière non conforme à la sunna de Rasoul sallam, son divorce est équivalent à un, et le juge a le droit de le punir, selon ce qu'il considère le meilleur pour l'éduquer. Yizmut tarbiya. Ça va? Donc voilà ce qui est pour celui qui agit ainsi. Et donc, c'est la position, donc pourquoi est-ce qu'on a considéré un seul divorce? Comme j'ai dit, pour préserver l'union, ça a été rapporté par celles qui cherchent les références. Wahb al-Zuhayli a écrit une somme de droit musulman en arabe qui est très très riche, qui s'appelle Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, le droit musulman et ses sources. Il est en 8 tomes, et donc c'est dans le tome 7, la page 413, où le Cheikh Wahb al-Zuhayli donc a donné cet avis avec les arguments. Voilà, je m'arrête à ce niveau donc pour que la prochaine fois, si Dieu le veut, nous verrons, si Dieu le veut, ensemble Al-Khola. Al-Khola, c'est-à-dire, c'est la procédure par laquelle la femme peut lever le lien matrimonial. Donc, c'est pas l'homme qui divorce, mais c'est la femme qui lève ce lien. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.